Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour Pararon, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix et Livre. On commence comme toujours par L'Incipit, la première phrase d'un roman culte. J'ai choisi un livre en lien avec notre invité cette semaine, vous allez voir. Il s'agit de Bartleby, le scribe, d'Herman Melville. Le livre commence comme ça. Je suis un homme assez avancé en âge. C'est tout, c'est court, et ce narrateur n'est pas Bartleby, il est l'homme qui a embauché un jour un certain Bartleby dans un bureau de copiste, et assez vite, il s'est aperçu qu'à chaque fois qu'il demandait quelque chose à Bartleby, ce dernier répondait « Je préférerais pas ». « I would prefer not to ». Pas oui, pas non, je préférerais pas, c'est tout. Et ça change tout. C'est une nouvelle, Bartleby, c'est très court, raison de plus pour le lire au plus vite. Plein d'autres livres à lire et des histoires d'amour aussi. Chez Victor Laszlo, nous sommes allés visiter la bibliothèque de la chanteuse, comédienne et écrivaine. Les libraires sont là pour les bonnes idées de lecture et nous terminerons avec la chronique jeunesse de Victor Dolande. Mais d'abord donc, c'est l'invité, La Voix et Livre. C'est parti, premier chapitre.
14h-15h sur Europe 1, La Voix et Livre. Nicolas Carreau.
Bonjour Pauline Klein.
Bonjour.
Vous publiez votre quatrième roman, La Figurante, chez Flammarion. L'histoire de Camille, Camille Taziev, comme Haroun Taziev, mais aucun lien. Elle est dans un train au début du roman. Elle est pensive, elle observe les voyageurs, notamment un couple d'adolescents qui se dragouillent. Elle doit se marier bientôt, mais elle a plutôt l'air de fuir. Et puis, flashback, elle nous raconte sa vie. Elle observe sa vie. Et il y a un passage qui résume bien le livre. C'est au début, je vais le lire tout de suite. Faire une vie. Et n'être finalement pas grand-chose de plus que soi, avec peut-être quelques écarts que nous élaborons comme on peut pour nous rendre plus reluisants, tenter de faire de son existence une bonne histoire. Notre vie consiste en une succession d'attentes au bureau de tabac et à la caisse de supermarché, des moments pendant lesquels nous nous ennuyons au point d'imaginer une autre vie, un décollement du réel. Est-ce qu'on vit, Pauline Klein, pour avoir quelque chose à raconter ?
C'est mieux d'avoir quelque chose à raconter pour beaucoup de gens. Donc, est-ce qu'on vit pour ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, le décollement du réel dont il s'agit là, c'est aussi une forme de décollement entre soi et ce qui a lieu, un décalage entre soi et la vie qu'on mène et soi et la façon dont on se raconte, un décalage entre ce qu'on attend et ce qui a vraiment lieu, un décalage entre ce qu'on est vraiment, entre guillemets, si tant est qu'on puisse le définir ou l'approcher, et la façon dont les autres nous perçoivent. Donc, je pense qu'on est nombreux, et je pense que je suis ça aussi, en tant qu'écrivain. Je cherche à regarder la vie de façon suffisamment précise et suffisamment, avec suffisamment de concentration pour essayer de trouver ce qui se niche dans la réalité pour en faire une bonne histoire, oui.
Alors, Camille, elle passe son temps à observer la vie et le monde qui l'entoure. Mais qui est-elle, Camille? Est-ce que vous pouvez nous la présenter?
Camille, elle n'a pas vraiment de visage. C'est le cas souvent dans mes livres. Et c'est le cas souvent des personnages que je raconte. Je dirais que Camille, c'est un regard sur le monde. Comme ce que vous dites, c'est une sorte de réceptacle de ce qui lui arrive. C'est un regard. C'est un personnage que j'ai... qui est presque comme une espèce de... qui aborde la réalité presque de manière performative, enfin comme une performance presque artistique, et qui essaye d'incarner ce regard au fur et à mesure que les choses lui arrivent. Je pense que c'est quelqu'un qui est très tributaire de l'extérieur, des situations extérieures, des personnages qu'elle rencontre, et qui essaye de s'adapter, là aussi un peu comme une expérience, aux personnalités qui se présentent, aux apparitions, aux situations. Et donc, c'est quelqu'un qui essaye de se balader entre les hasards de la vie, ce qu'on lui demande de choisir, les injonctions, les devoirs, ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. C'est un regard qui essaye de s'adapter et d'exister à travers ce qui lui est demandé.
Elle n'a pas de visage, mais on peut quand même dire que c'est une trentenaire, qu'elle est plutôt branchée art. Voilà, elle travaille dans des galeries d'art, notamment. Elle est partie à New York, puis ensuite à Paris. On va y revenir. Mais enfin, il y a aussi le personnage de sa mère qui est décrit au début du roman et qui va quand même déterminer un peu la suite, parce qu'elle a une particularité, cette mère, elle est extrêmement tolérante, mais vraiment à l'extrême, c'est-à-dire qu'elle elle accepte tout.
Oui, ce qui est très dangereux parce qu'elle comprend absolument tout, donc elle lui donne une espèce de liberté et d'absence de limite totale, ce qui l'angoisse beaucoup, parce que je pense que c'est plus facile de se libérer d'une mère qui a été, ou d'un père qui a été un peu autoritaire, en tout cas c'est plus facile de se libérer des limites quand on en a eu, ou de se libérer, de sortir des carcans comme on dit aujourd'hui quand on en a eu, mais quand on n'en a pas eu du tout, c'est plus compliqué. Donc je pense qu'elle en souffre beaucoup et qu'elle se les réimpose dans son adolescence, et aussi à l'aube de son âge adulte, enfin de l'âge adulte et à l'âge adulte. Donc c'est ce que vous dites, c'est-à-dire elle est branchée art, elle a une vie presque caricaturale dans ce qui est exigé d'elle. Et je pense que ça vient aussi de sa mère, c'est-à-dire elle est dans une quête de retrouver ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, parce que ses parents ne lui ont jamais dit « ça se fait, ça ne se fait pas », tout se faisait. Donc, puisque tout se faisait, je pense qu'il y a une espèce de régression. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un d'immature, mais je pense que c'est quelqu'un qui est très connecté à ce dont elle a manqué enfant et qui essaye de se recréer des cadres un peu rigoureux. Et ces cadres-là passent par des injonctions et par ce qui est exigé d'elle. Et ça peut être assez rassurant aussi dans la vie d'adulte.
Assez rassurant, mais assez angoissant aussi, puisque Camille, elle passe son temps à essayer de trouver, d'identifier le rôle social qu'on veut la voir jouer. Et on en parle dans un instant.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
De retour dans La Voix est libre avec Pauline Klein qui signe La Figurante chez Flammarion, l'histoire de Camille qui est censée se marier mais qui a plutôt l'air de fuir. Elle nous raconte sa vie, elle a travaillé pour une galerie d'art à New York à 25 ans mais sans un sou, et c'est compliqué de vivre à New York sans argent. Elle est rentrée en France ensuite mais toujours sans argent, avec un petit travail dans une galerie d'art encore, et elle observe le monde et les gens, et puis comme on le disait avant la pause, elle passe son temps à jouer son rôle social, celui qu'on attend d'elle en fait. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas dupe. Elle sait qu'elle est en train de jouer.
Oui, elle passe son temps à contredire les représentations sociales dans son intimité, à essayer de vouloir participer tout en essayant de tricher. Donc elle veut jouer le jeu, mais elle veut tricher, elle veut truquer un peu les dés et changer un peu les règles. Donc c'est vrai que c'est excitant pour un personnage comme ça de se dire « je vais faire ce qu'il faut faire », à savoir apprendre l'anglais pour ajouter une expérience à l'étranger, pour perfectionner une langue qui est utile dans le monde du travail. Travailler dans l'art, c'est une chose à dire, puisqu'on parlait de raconter son histoire au lieu de la vivre. C'est une phrase qui fait très très bien quand on est adolescent. Je pars à New York, très bien. Mmh. Je parle bien anglais maintenant, c'est bien pour mon CV, très bien. Toutes ces choses sont très gratifiantes, en tout cas sur la forme, mais ce qui se passe à l'intérieur, c'est assez vide, à savoir que pour accéder à cette vie racontable, il faut en avoir les moyens économiques. Et toute sa vie, en tout cas dans le segment que raconte le roman, est vécue comme une soumission à ce décalage-là, entre ce qu'elle aimerait raconter et l'impossibilité de le vivre vraiment.
Alors, je ne retrouve plus la phrase exacte, mais à un moment, elle dit « il faut être riche pour pouvoir travailler dans l'art ».
Oui, il faut être très riche. Mais moi, je l'ai fait, j'ai travaillé dans l'art et je gagnais l'équivalent d'un salaire d'un stage, en fait. Donc, je ne sais plus combien c'était, mais une fois que j'avais payé mon loyer, je pouvais m'acheter un hot dog. Et ensuite, il fallait que je choisisse entre manger et fumer, en gros. Comme j'aime beaucoup fumer, je préférais fumer. Mais c'est vrai que ça coûte très cher parce qu'il faut s'habiller en fonction. Il faut pas prendre le métro parce qu'on ne déboule pas d'une bouche de métro quand on a rendez-vous. On s'arrête un peu plus tôt pour pouvoir marcher et arriver jusqu'au... on va pas dîner n'importe où. Donc oui, ça coûte matériellement très cher de travailler dans certains milieux, oui.
De garder le statut. Oui. Certains confrères qui parlent de Barthelby en évoquant votre roman. Bartleby, c'est donc ce personnage embauché, employé de bureau, et quand on lui demande de faire quelque chose, il répond juste « je préférerais ne pas »,« I would prefer not to ». C'est une nouvelle de Melville. Mais donc, Camille fait partie de cette famille d'humains, finalement, qui n'ont pas tellement envie de jouer le jeu.
Oui,
mais un peu quand même, qui préfèrent ne pas.
Oui, pour préférer ne pas, il faut quand même qu'on nous demande quelque chose. On ne peut pas préférer ne pas tout seul dans sa chambre. Donc il faut quand même sortir de chez soi, ouvrir la porte d'un bureau pour pouvoir répondre à cette phrase. Bartleby, c'est l'incarnation de la résistance passive, qui est aussi le mode de vie de Camille. Et c'est un personnage comme celui de Camille, je crois. J'ai souvent pensé à Bartleby pendant l'écriture du livre. Qui n'a pas une voix très forte, qui a du mal à asséner des choses, à taper du poing sur la table, mais qui résiste autrement, avec une voix plus sourde, plus douce.
Qui s'échappe aussi.
Qui s'échappe, qui est moins forte. C'est vrai qu'il y a beaucoup de voix très fortes, et qu'aujourd'hui, j'ai pensé aussi en écrivant le livre à la violence de certaines voix auxquelles on peut adhérer, mais qui pour moi sont beaucoup trop fortes et me font un peu peur et sont beaucoup trop brutales. Mais il y a de la brutalité aussi dans le silence, il y a de la brutalité aussi dans le sabotage sourd à la façon de Bartleby. Et on peut s'indigner sans forcément le raconter justement, sans forcément le poster, sans forcément le hashtaguer, sans forcément le hurler. On peut saboter et s'indigner et entrer en résistance dans une forme invisible. Et on sait qu'on le fait pour soi et pas juste pour être estampillé. Rebelle ou... Voilà.
Alors, c'est un roman vif, court, très drôle en fait, mais aussi très triste. Alors triste, pourquoi ? Peut-être, moi j'ai cette explication-là, c'est que Camille observe donc, la vie, les gens, sa vie professionnelle, sa vie sentimentale, qui n'est pas dingue non plus,
non.
Mais à force d'observer, elle est plutôt désabusée en fait, un peu désenchantée de tout. On ne peut pas être un imbécile heureux quand on est conscient de tout et donc on est forcément un peu malheureux, non ?
La conscience n'est pas... Oui, la quête de lucidité et de recul sur soi n'est pas une bonne technique de bonheur, peut-être, en effet. C'est pas un livre qui donne des outils pour être heureux.
Ah, c'est pas un livre de développement personnel, ça c'est
non.
sûr. Non,
mais si, en fait.
Ah,
un petit peu,
oui, si, éventuellement.
Un petit peu, parce que si on dépasse cet état-là...
Il n'y a pas de recette.
Il n'y a pas de recette, mais... Je pense qu'on est plus heureux quand on cherche que quand on a trouvé aussi. Je pense que c'est aussi excitant de remettre en question les choses, de relancer les dés. Et je crois que c'est drôle aussi, enfin j'espère que c'est drôle aussi et que c'est joyeux aussi, pas bêtement, pas imbécile heureux, parce que c'est quelqu'un qui arrive à s'amuser de tout ça. Et cette conscience-là, c'est pas juste un triste constat que la vie ne vaut rien. C'est aussi une façon de dire, en fait, on peut vraiment s'amuser, on peut vraiment jouer aussi des cadres et de ce qui nous est imposé et de la vie professionnelle et de la vie sentimentale. Et si on ne l'apprend pas, si on ne prend pas toutes ces choses au premier degré en étant complètement dupe de son personnage, on peut vraiment bien plus se marrer que si on est bêtement heureux.
Comme quand elle est dans sa galerie à Paris, il y a la patronne qui dit à la stagiaire « Bonjour Erika », mais à elle, à Camille, comme elle la connaît depuis quelques temps, elle dit « Hello toi !» comme pour montrer que ce n'est pas le même statut.
Évidemment, dans un roman, on va chercher dans les recoins de langage ou de situation des choses qui sont risibles. Ce que j'essaye de faire quand j'écris, c'est de contredire ce qui est censé être normal pour essayer de... Oui, j'essaye de remettre en jeu le normal.
Et c'est pratiquement la définition de l'écrivain, finalement. La figurante, c'est le titre de votre nouveau roman, donc chez Flammarion. Merci, Pauline Klein.
Merci beaucoup.
Dans un instant, encore des livres, nous allons parler d'un roman culte. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La voix est livre.
Chaque semaine, nous évoquons un roman culte. Aujourd'hui, Le Roi des Aulnes de Michel Tournier. Je ne l'ai pas choisi, c'est Philippe Dussault, le comédien qui lit quelques pages des œuvres chaque semaine, qui a insisté, il adore ce livre. J'avoue que je n'avais jamais lu ce chef-d'œuvre de Michel Tournier, à qui l'on doit aussi Vendredi ou Les Limbes du Pacifique, qui s'intéressait au mythe de l'île déserte de Robinson Crusoe. C'est un autre mythe qui est évoqué ici. Le titre fait référence à un poème de Goethe, Le Roi des Aulnes, une créature maléfique des forêts. Dans le roman de Tournier, l'ogre, c'est le héros, Abel Tiffauges, qui nous raconte son enfance et sa traversée de la Seconde Guerre mondiale, peuplée d'ogres, évidemment. Il a été publié en 1970 et il a obtenu le prix Goncourt. Je vous propose d'écouter les toutes premières pages lues par Philippe Dussault.
« 3 janvier 1938. Tu es un ogre, me disait parfois Rachel. Un ogre ? C'est-à-dire un monstre féerique émergeant de la nuit des temps ? Je crois, oui. Je crois à ma nature féerique, je veux dire à cette connivence secrète qui mêle en profondeur mon aventure personnelle au cours des choses et lui permet de l'incliner dans son sens. Je crois aussi que je suis issu de la nuit des temps. J'ai toujours été scandalisé de la légèreté des hommes qui s'inquiètent passionnément de ce qui les attend après leur mort, et se soucie comme d'une guigne de ce qu'il en était d'eux avant leur naissance. L'en-deçà vaut bien l'au-delà, d'autant plus qu'il en détient probablement la clé. Or, moi, j'étais là déjà, il y a 1000 ans, il y a 100 000 ans, quand la Terre n'était encore qu'une boule de feu tournoyant dans un ciel d'hélium. L'âme qui la faisait flamber, qui la faisait tourner, c'était la mienne. Et d'ailleurs, l'antiquité vertigineuse de mes origines suffit à expliquer mon pouvoir surnaturel. L'être et moi, nous cheminons depuis si longtemps côte à côte. Nous sommes de si anciens compagnons que, sans nous affectionner particulièrement, mais en vertu d'une accoutumance réciproque aussi vieille que le monde, nous nous comprenons. Nous n'avons rien à nous refuser. Quant à la monstruosité, et d'abord, qu'est-ce qu'un monstre ? L'étymologie réserve déjà une surprise un peu effrayante. Monstre vient de montrer. Le monstre. Est-ce que l'on montre du doigt dans les fêtes foraines, etc. Et donc, plus un être est monstrueux, plus il doit être exhibé. Voilà qui me fait dresser le poil, à moi qui ne peux vivre que dans l'obscurité et qui suis convaincu que la foule de mes semblables ne me laisse vivre qu'en vertu d'un malentendu, parce qu'elle m'ignore. Pour n'être pas un monstre, il faut être semblable à ses semblables, être conforme à l'espèce, ou encore être à l'image de ses parents. Ou alors, avoir une progéniture qui fait de vous, dès lors, le premier chaînon d'une espèce nouvelle. Car les monstres ne se reproduisent pas, les veaux à 6 pattes ne sont pas viables, le mulet est... Le bardeau naît stérile, comme si la nature voulait couper court à une expérience qu'elle juge déraisonnable. Et là, je retrouve mon éternité, car elle me tient lieu à la fois de parents et de progéniture. Vieux comme le monde, immortel comme lui, je ne puis avoir qu'un père et une mère putatifs et des enfants d'adoption. Je redis ces lignes. Je m'appelle Abel Tiffauges, je tiens un garage, place de la Porte des Ternes, et je ne suis pas fou. Et pourtant, ce que je viens d'écrire doit être envisagé dans un sérieux total. Alors, l'avenir aura pour fonction essentielle de démontrer, ou plus exactement d'illustrer, le sérieux des lignes qui précèdent.
C'était donc le début du Roi des Aulnes, lu par le comédien Philippe Dussault. Dans un instant, encore des livres, nous partons visiter la bibliothèque de la chanteuse et comédienne et romancière Victor Laszlo.
La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue, il est temps de quitter un peu ce studio. La chanteuse et comédienne Victor Laszlo publie un nouveau roman chez Grasset, Trafiquant de colère. Nous avons profité de l'occasion pour visiter sa bibliothèque. Bonjour Victor Laszlo.
Bonjour Nicolas Carreau.
Merci de nous recevoir. On est dans votre appartement à Paris. Et alors, non seulement dans l'appartement, mais dans une sorte de
pigeonnier, de petit grenier réaménagé, je ne sais pas, une chambre d'étudiant, on dirait une chambre de poète du 19e, je trouve, avec une toute petite fenêtre qui donne sur un parc. C'est très, très joli. Et on a envie, il y a un bureau, plein de livres partout, et ça donne envie d'écrire, je trouve. C'est là que vous écrivez ?
Alors, c'est là que je débute, enfin, depuis 12 ans que j'habite ici, que j'ai commencé à écrire toutes les histoires que j'ai écrites depuis, mais je n'arrive pas à les finir à Paris. Je manque de concentration à Paris. Le bruit, la vue d'ailleurs, les corbeaux qui se posent sur les toits, sur le chien assis, les pigeons, tout ça,
ça
me distrait. J'ai besoin de quitter Paris, d'être seule, surtout de ne plus avoir de vie familiale pour écrire.
Ah oui, c'est surtout ça.
C'est surtout ça.
Parce que si c'est trop joli, c'est pas grave, quoi.
Non, c'est pas grave.
Vous n'allez pas dans un endroit moche pour écrire.
Non, je vais dans un endroit encore plus beau.
Mais vous n'avez pas besoin d'être entouré de livres pour écrire ?
Oui, mais d'ailleurs, je pars généralement avec 50 kilos de bagages et de bouquins.
Alors, on va rentrer dans le cœur du sujet. Alors, je ne sais pas trop par où commencer, parce que donc il y a une bibliothèque sur tout un mur, très très bien rangée dans des petits casiers. C'est par collection, par éditeur et tout ça, c'est très très beau. Puis par terre, il y a tous ceux qui n'ont pas trouvé leur place dans la bibliothèque parce qu'il y a faute de place. J'imagine que c'est des livres nouveaux que vous venez d'acheter ou je ne sais pas.
Ça, c'est un peu la lecture des 6 derniers mois, ce qui est par terre. Et puis surtout, la moitié de ma bibliothèque n'est pas là. Elle est dans le sud de la France.
Il y a un livre de Mackenzie Orsel, écrivain haïtien.
Absolument. Mackenzie, c'est la grande découverte de l'année dernière pour moi. Je ne connaissais pas cet écrivain. Et sa manière d'écrire, je trouve qu'il il renouvelle quelque chose. Il apporte vraiment quelque chose de nouveau dans l'écriture. Dans l'écriture romanesque. J'aime beaucoup sa spontanéité, sa violence et son élégance, parce que c'est quelqu'un de fondamentalement élégant, je trouve.
Et son dernier livre, Maître Minuit, il n'y avait pas de majuscule du tout pendant tout le roman. C'est étonnant.
Je trouve ça fascinant, c'est complètement hypnotique. Ouais. Et
ça fait qu'il n'y a pas d'interruption. Et donc on lit sans être interrompu par les reliefs.
Oui, mais ça pourrait être terrible si le sujet n'était pas prenant. Mais comme vous tombez là-dedans, comme on tombe dans un puits sans fond, on commence et on ferme le livre, on l'a terminé.
Alors, il y a d'autres livres, il y a des classiques beaucoup. Par où on pourrait commencer? Là, je vois Virginia Woolf, Le journal intégral. J'imagine que Virginia Woolf, c'est une sorte de modèle pour vous. C'est quoi?
C'est
la préférée?
Elle fait un peu partie de mes totems. Ce n'est pas la préférée. Et pour trouver la préférée, il faut aller quelques casiers plus à droite.
On va y aller ensuite.
On va arriver.
Je vois. On ne dit rien. Voilà, je l'ai vu.
Mais Virginia Woolf est très importante pour moi parce qu'elle a. Pour moi, c'est une des premières voix féministes et libres. Dans la littérature et féminine, parce qu'elles ne sont pas toutes féminines, les voix féministes. C'est le genre de personnes qui, en tout cas, qui m'apprennent la vie, d'une certaine manière. Plus que la littérature, c'est la vie à travers des œuvres comme Mrs. Dalloway, Une chambre à soi. Ça, ce sont des textes qui sont fondateurs pour moi.
Qu'est-ce que vous attendez de la littérature, d'ailleurs ? Est-ce que vous en attendez quelque chose ?
Oui, c'est sûr que quand j'ouvre un livre, j'ai une attente énorme. Je n'ai pas envie de le refermer tout de suite par dépit ou par... j'ai pas envie d'être déçue. Donc, déjà, la langue. J'aime la langue française et j'aime qu'elle soit... sinon respecté, au moins réinventé, mais pas bâclé, pas piétiné. C'est vrai que j'aime la langue française. J'aime lire dans le texte si possible, en anglais, en allemand quand c'est possible. Mais voilà, d'abord l'écriture. Ensuite,
vous lisez en allemand dans le texte?
J'ai pas mal lu, ouais, parce que j'ai fait des études d'histoire de l'art, d'archéologie, et toute l'égyptologie était essentiellement en allemand. Donc c'était un peu dur. Mais bon, il y a par exemple là-dedans, je ne vous dirai pas lesquels, mais il y a un ou deux livres qui me sont tombés des mains parce que je n'arrive pas à m'intéresser au béton, je n'arrive pas à m'intéresser à l'industrie. J'ai besoin de rêver, qu'un bouquin me transporte dans quelque chose de si pas ça peut être glauque hein, ça oui. peut être complètement glauque, je n'aime pas les romans à l'eau de rose, c'est pas du tout ça. Ça peut être violent, ça peut être tragique, glauque, tout ce qu'on veut, mais pas froid.
Houellebecq par exemple, vous n'êtes pas très fan alors.
Si. Mais c'est pas froid Houellebecq.
Non.
Soumission, c'est pas froid. Si, moi j'ai la possibilité
un peu dans le béton quoi.
Sauf la possibilité du Nil, ouais. c'est pour moi c'est un des, enfin j'ai adoré ce texte, je l'ai traversé avec un ébahissement enfin sans interruption. Soumission, je trouvais que c'était un texte tellement bien vu. Bon, je ne suis pas fan de tous ces textes, mais j'aime Houellebecq.
Bon, il est temps de passer à l'écrivain préféré.
Ouais, enfin,
donc c'est Toni Morrison, c'est bien ça ?
Je dis l'écrivain préféré, mais c'est vrai que Toni Morrison, pour moi, est très, très importante. Toni Morrison et aussi Alice Walker, je dis comme le Canadien, Alice Walker. Alice Walker, The Temple of My Familiar. Et ce sont des textes qui m'ont rendu à... C'est un peu une expression un peu toute faite, mais qui m'ont rendu à ma négritude.
Ah oui.
Vraiment.
Toni Morrison, prix Nobel, écrivain américain, prix Nobel, et qui justement a fait beaucoup pour la cause noire aux États-Unis, prix Nobel justement, grand écrivain reconnu.
Oui, premier prix Nobel de littérature, une première femme noire à obtenir le prix Nobel. Elle compte parce qu'elle n'a pas, contrairement à Ralph Ellison, qui lui est un écrivain du début du siècle, qui a écrit ce merveilleux texte, Homme invisible pour qui chantes-tu, qui est un texte fondateur dans la littérature noire américaine. Toni Morrison, elle se place dans un cycle, je dirais, réaliste, formidablement contemporain. C'est-à-dire que tous ces textes peuvent toucher n'importe qui dans la société, qu'il soit noir ou blanc. Ce sont des textes qui parlent de l'homme, de l'être humain, de ses pulsions, de ses contradictions, de ses dégoûts, mais qui peuvent s'adresser à n'importe quel...
Et malgré ça, elle peut vous renvoyer, à votre négritude.
Oui, parce qu'effectivement, elle parle de gens... de couleur, et que moi je les ressens comme ce qu'elle décrit, mais ça va au-delà de ça, ce sont vraiment des textes universels.
Vous en avez plusieurs en double, s'il faut en garder un sur l'île déserte,
voilà. Pour l'île déserte de Toni Morrison, ouais. Plutôt le premier, hein. Enfin le premier que j'ai lu moi, c'était Beloved. Beloved, dont on a fait un film, je crois, qui est un texte, alors là, vraiment, lui, ancré dans l'esclavage et dans ce qu'il y a de plus terrible. C'est un peu le choix de Sophie dans l'histoire de l'esclavage, avec cette mère qui décide de sacrifier son enfant pour qu'il ne soit pas mis en esclavage. Ça, c'est pour moi, c'est un texte important.
Et juste à côté, je vois qu'il y a tout un rayon sur la littérature antillaise et l'histoire de la Martinique aussi. C'est quoi votre rapport à la Martinique aujourd'hui ?
La Martinique est mon île, mon pays, l'endroit où j'ai envie de terminer ma vie, d'une certaine manière. Et à l'époque où j'écrivais Les Passagers du siècle, j'ai beaucoup lu l'histoire de la Martinique et tous ces textes qui m'ont appris énormément de l'histoire de l'histoire de cette île.
Vous avez un livre de Pierre-Louis Basse,
ah oui,
qui est une légende d'Europe 1, qui est mon maître.
Absolument. Pierre-Louis Basse, je l'avais rencontré. Oui, j'avais bien aimé ce texte. Comme un garçon.
Sachant qu'il s'appelle Pierre-Louis Garçon. Pierre-Louis Basse, c'est un pseudonyme.
Oui, je m'appelle Pierre Garçon. Ouais.
Il y a une vraie littérature antillaise, comment on peut la définir ?
Pour moi, il y a une langue antillaise en littérature.
Au-delà du créole, bien sûr.
Non, oui, ce n'est pas le créole, c'est une espèce de chatoiement de la langue, comme si la langue était un oiseau qu'on posait sur une feuille et qui tout à coup s'envolait. C'est vraiment une langue très imagée. Alors peut-être qu'ici, dans certains cercles littéraires, on trouvera qu'elle est elle a un peu trop d'appoggiature, comme ça, elle a un peu de décor, de décorum. Mais moi, je la trouve tellement chantante, tellement pas sucrée. C'est pas une écriture sucrée. Non, c'est une écriture
vive.
De l'image et vive. Ouais, très, très vive.
Oh, il y a Raymond Carver, là, qui est un écrivain que j'adore, écrivain américain, et surtout connu pour ses nouvelles. Et notamment le recueil Les Vitamines du Bonheur.
Vitamines du Bonheur, Tais-toi quand tu parles. Non, c'est pas Tais-toi. Non, Tais-toi s'il te plaît. Tais-toi quand tu parles. Il est juste à côté. Tais-toi s'il te plaît.
Tais-toi,
je t'en prie. Voilà.
Et alors, dans Les Vitamines du Bonheur, il y a la nouvelle Une petite douceur, qui est ma nouvelle préférée du monde.
Attends, elle est où ?
Ah, le marque-page est dessus. Il n'y a pas de hasard.
Ouais, Une petite douceur. Le samedi après-midi, elle alla en voiture à la petite boulangerie-pâtisserie du centre commercial. Après avoir feuilleté un classeur contenant des photos de gâteaux, elle en commanda un au chocolat, ce que l'enfant préférait. Le gâteau choisi était décoré d'un vaisseau spatial, d'une aire de lancement sous un semis d'étoiles blanches et d'une planète en glaçage rouge. Son nom, Scotty, serait écrit en relief, en lettres vertes, sous la planète.
Et le pauvre petit Scotty va avoir un accident.
Jamais.
Et le pâtissier va harceler les parents qui ne sont pas venus chercher le gâteau.
Exactement.
Parce qu'il ne sait pas ce qui s'est passé pour le petit Scotty. Et la fin est merveilleuse.
Ah, c'est sublime. C'est vraiment extraordinaire.
On ne peut pas la raconter.
Surtout quand, non, il faut le lire, Carver, parce que ce n'est pas une littérature difficile. Et moi, j'aime beaucoup l'idée, la raison pour laquelle il écrivait comme ça. J'aime beaucoup ce qu'il y a derrière cette écriture qui est quotidienne, qui est de son environnement, qui est... C'est un homme qui ne travaillait pas ailleurs que chez lui. Il s'occupait des enfants, de son ménage. Et il n'avait pas beaucoup de temps pour écrire, donc il écrivait des poésies, des nouvelles.
Juste à côté,
il
y a un livre
vieux.
Et on distingue Apollinaire marqué sur la tranche, mais au feutre,
oui.
Parce que la couverture est partie.
Disparu.
La reliure est partie.
Oh ouais.
Il vient d'où, ce livre ?
Alors, on va regarder s'il y a quelque chose écrit dedans, parce que souvent, à l'époque...
C'est un bouquiniste ?
Non, je pense que ça vient de la bibliothèque de mes parents, ça. Ou peut-être un bouquiniste.
Il y a un petit papier dedans.
Hôtel Lutetia, boulevard Raspail.
Uh-huh.
Ouais, ça doit être un bouquiniste. Ça date... Ça doit pas être si vieux que ça. À moins que ce soit... Ah, mais non, ça y est, je me souviens. C'était à Lavilliers, ce bouquin.
Pourquoi ?
Ça, oui, je
Bernard Lavilliers ?
Ouais, je me souviens parce qu'il y a Hôtel Lutetia. Ouais, c'était à Bernard Lavilliers.
Qui était un ami ?
Ouais.
Qui est un ami ?
Ouais.
Et qui voulait offrir ?
Et qui je sais pas comment ça a fini chez moi, mais bon, voilà, c'était à Bernard.
Mais c'est un beau cadeau, ça. C'est...
Oui, je sais pas si c'est un cadeau ou si c'est
ou s'il
a oublié, si je l'ai piqué, je sais plus.
Il y a une histoire entre Bernard Lavilliers et vous, comment ? Il faut avoir des ragots ou pas ?
Oh, c'est pas
des ragots, c'est une notoriété publique.
Oui, il y a un truc. On était partis en concert au Québec, au Festival d'été au Québec, et un journal avait publié La Belle et la Bête.
Wow ! Sympa pour Bernard Lavilliers. Parce
il aimait
que c'était
ça.
Vous la Belle.
Il aimait beaucoup. Ah, bah, clairement, surtout à l'époque. Surtout à l'époque.
Bah, c'est un des plus beaux cadeaux à se faire entre amoureux, c'est un recueil de poèmes, non ?
Oui,
entre amis d'ailleurs.
Oui, même entre amoureux, mais c'est surtout en ce qui concerne Bernard, il a été le premier à me dire d'écrire mes textes de chansons. Il se doutait que j'écrivais des petites histoires, mais c'est vraiment lui qui m'a mis le pied à l'étrier pour l'écriture des chansons. Et ça, déjà, c'est un cadeau parce que c'est une confiance que je ne me serais jamais accordée.
Je vois pas ce qu'on peut trouver comme meilleure histoire là dans toute cette bibliothèque pour parler de vous, donc je pense qu'on va en rester là.
Okay.
Merci beaucoup Victor Laszlo.
Merci Nicolas.
Europe 1.
De retour en studio, merci à Julien Or pour la prise de son et je rappelle le titre du nouveau roman de Victor Laszlo chez Grasset, Trafiquant de colère, colère au pluriel, c'est à lire. Restez là, les libraires de La Voix et Livre arrivent avec deux bonnes idées de lecture encore. À tout de suite.
La Voix et Livre. Nicolas Carreau.
Retour dans La Voix est libre, il est l'heure de flâner dans les rayons des librairies. Le libraire est venu, il a dit « je peux vous aider ». Et cette fois, on a dit oui parce qu'on a reconnu Thibaut Raden de la librairie L'Écriture à Vaucresson et Jérémy Banel de la librairie Lamartine à Paris. Salut les libraires.
Salut Nicolas.
On commence par vous Jérémy avec un titre splendide, La Folie Fischer. Qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que c'est ?
Alors, La Folie Fischer, c'est un roman de Christian Carizet, publié aux éditions Alma. Et comme on peut le voir sur la couverture, il y a un échiquier, parce que je vous dévoile, parce qu'on est à la radio évidemment, et la folie Fischer, ça va parler donc des échecs. Forcément, quand on pense folie et échec, il y a tout de suite, j'imagine, un titre qui vient en tête. Souvent, en tout cas, ça va être le joueur d'échecs de Zweig. Voilà, merci de suivre. et là, d'une certaine façon, on pourrait presque considérer que c'en est un espèce de pendant, biographique et documenté, sous une forme romanesque quand même. C'est l'histoire de Bobby Fischer, grand joueur d'échecs, un des meilleurs joueurs du monde des années... Un des vrais meilleurs joueurs du monde dans les années 60, 70 et un petit peu 80. Et c'est l'histoire de ce personnage complètement fascinant. Un parcours familial compliqué, ses parents, enfin sa mère quitte l'Europe, vient aux États-Unis, lui découvre les échecs un petit peu tout seul. C'est un enfant assez solitaire. Et petit à petit, il devient à la fois un très grand joueur d'échecs et aussi un très très grand paranoïaque.
Il est
fou. Voilà, la folie Fischer, il est vraiment dérangé. Il est persuadé
c'est ce qui fait qu'il est bon.
C'est peut-être ce qui fait qu'il est bon ou l'inverse. On n'arrive pas à savoir, mais ça fait partie de la magie du livre. Plus il évolue, plus il devient fort, plus il est persuadé que le Mossad, la CIA, le KGB lui en veulent, que de toute façon tout ça est un complot des Juifs manipulés par les communistes, alors que c'est dans le même temps les Américains qui tirent les ficelles.
Et les francs-maçons.
Voilà, je les avais oubliés, merci. Et c'est son parcours, à la fois une ode au jeu des échecs, à sa poésie, parce que c'est un joueur très poétique, et à tout ce qui permet de faire, et à ses grands joueurs, et à la fois aussi une traversée de ce 20e siècle avec ce type qui finira par dire que le 11 septembre c'était bien fait, de toute façon bien fait pour ces sales juifs américains, sachant que lui-même est juif. Voilà, un parcours à la fois politique et un beau portrait de la vie des échecs, de ce milieu et de ces grands héros, Fischer, Kasparov, etc.
Mais c'est une enquête, c'est pas un roman.
C'est un roman. Non, c'est un vrai roman parce qu'il est traité sous un mode romanesque, parce que forcément l'auteur imagine tout un tas de choses dans sa vie intime et privée, on va dire. Et c'est un très beau livre sur jusqu'où le cerveau humain peut aller quand ça va mal.
D'accord. Christian Carizet qui signe donc La Folie Fischer chez Alma. C'est à vous Thibaut Raden avec un livre à la couverture fantastique. Dans la librairie, il y a à peine besoin de le vendre, tellement c'est beau ça.
Ah ouais, je suis assez d'accord. Je crois d'ailleurs qu'il parle tout seul parce qu'il a une belle couverture. Mais vous avez utilisé le bon mot parce que vous avez dit fantastique. Et pour le coup, c'est du fantastique, c'est du roman policier fantastique. Ça s'appelle 14 crocs de Martine Solares chez Christian Bourgeois.
Crocs comme des crocs de chien.
Voilà, c'est ça. Et ça n'a absolument rien à voir dans l'histoire avec le livre de Jérémy. Là, on est vraiment dans un truc complètement inventé. Sauf que là où on s'amuse, c'est qu'en fait, on est à Paris en 1927. Et on va suivre Pierre Lenoir, qui est un jeune enquêteur de la brigade nocturne. Et cette brigade nocturne, c'est une brigade un peu spéciale parce qu'en fait, ces enquêteurs ont la capacité, surtout Pierre Lenoir, de voir les morts.
D'accord.
Et là, en gros, il y a un mec qui était par terre, un des enquêteurs qui passait par là. Il n'était pas du tout en train de travailler. Il trouve le gars, il le secoue pour voir s'il n'est pas juste bourré ou quoi que ce soit. En fait, il se rend compte qu'il est mort et qu'il a le visage complètement vert et qu'au niveau de sa jugulaire, il y a 14 crocs. Sauf qu'il n'y a pas une tache de sang et il n'a pas l'air, lui, non plus, d'avoir de sang dans le corps. Rien du tout. Donc, un mystère.
C'est 7 vampires qui ont
mort. On ne sait pas trop. Et en fait, Pierre Lenoir va devoir utiliser ses capacités un peu particulières de voir les morts pour essayer d'enquêter, parce qu'on comprend tout de suite que c'est un meurtre un peu surnaturel. Et en fait, là où c'est vraiment génial, là, on s'amuse, c'est que l'auteur, il s'amuse à faire intervenir des personnages connus de nous, c'est-à-dire Dali, Breton, voilà, et Oscar Wilde, tous ces gens-là. Et en fait, il en fait des morts pour ceux qui l'étaient déjà à cette époque-là. Et en fait, il nous met le doute sur certains. Comme par exemple, est-ce que Breton était mort à cette époque-là ou pas? Est-ce que c'était un fantôme qu'on pouvait voir? Et en fait, il joue là-dessus pour essayer de nous faire deviner qui était le meurtrier.
Et pourquoi il ne demande pas directement à la victime?
Ah, parce que la victime est morte. C'est un mort.
Mais s'il voit les morts.
Bah justement, il y a un petit peu de particularité quand même avec ce meurtre. C'est que selon Scotland Yard, ce gars-là qui est mort avec 14 crocs est mort il y a 100 ans déjà. Donc en fait, c'est un mort qui est déjà mort. Et donc, pourquoi est-ce qu'il est remort? Pourquoi est-ce qu'on l'a tué déjà la première fois?
D'accord.
Mais en fait, c'est génial, parce que c'est pas du tout alambiqué. On s'amuse complètement là-dedans. Et on discute avec Man Ray comme si c'était notre ami. C'est absolument superbe. C'est un plaisir de lecture.
Parfait. Et alors donc, ça se passe à Paris, mais c'est écrit par un Mexicain.
Ouais.
Qui s'appelle donc Martine Solares. C'est traduit par Cristina Vassero et ça s'appelle 14 crocs chez Christian Bourgois. Et Jérémy Banel, donc on rappelle La Folie Fischer de Christian Carizet, c'est chez Alma, merci beaucoup à tous les deux. On retrouve ces livres dans vos librairies respectives, librairie de l'écriture à Vaucresson et la librairie Lamartine à Paris. Merci beaucoup.
Merci Nicolas.
Merci.
Direction le rayon jeunesse maintenant avec Victor Dolland. À tout de suite.
Il était une fois.
Et comme chaque semaine, on retrouve le conseil littérature jeunesse de Victor Dolland. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Et alors attention, parce qu'aujourd'hui, immense classique de la littérature française, L'Amant de Marguerite Duras.
Totalement,
mais
oui.
Version manga par la japonaise Kan Takahama, c'est ça?
Oui, très bien prononcé, bravo pour la prononciation. Alors pour sa version roman, Marguerite Duras avait remporté le prix Goncourt, on s'en souvient, en 1984. Pour ceux qui seraient quand même passés à côté de ce chef-d'œuvre, voici un bref résumé. Dans le roman, comme dans la BD, la narratrice est l'auteur elle-même. Elle a 15 ans, elle vit en Indochine avec sa mère et ses deux frères. Elle étudie dans un lycée français. Sur le bac qui traverse le fleuve séparant son lycée de sa pension, elle rencontre un riche chinois, un amour aussi fou que soudain, régi par l'argent notamment. Une histoire ambiguë, très compliquée à gérer pour la jeune fille.
Et pourquoi et comment une auteure japonaise de manga a eu l'idée comme ça de reprendre un texte comme ça?
Ben alors en fait, elle voue une passion sans limite à toute l'œuvre de Marguerite Duras. Il y a quelques années, elle s'est tout simplement lancée ce pari, adapter L'Amant en bande dessinée. Et comme Marguerite Duras donne beaucoup de détails, notamment vestimentaires, dans son roman, elle a pu mieux imaginer la jeune femme et son amoureux. Elle a ensuite cherché des photos originales sur lesquelles Duras s'est basé pour créer ses propres personnages. Kan Takahama s'est même rendu au Vietnam pour trouver des ambiances qui lui permettaient de rentrer davantage dans les pas de l'auteur et donc du personnage du roman.
Il y a forcément des différences, c'est une adaptation, donc, entre les personnages du roman et ceux de la BD.
Oui, totalement. J'ai pu rencontrer Kan Takahama avant le festival d'Angoulême, c'était il y a quelques jours. Elle m'a justement confié ces différences entre ses personnages et ceux de Marguerite Duras.
Alors peut-être que le personnage que j'ai dessiné, la jeune fille, est peut-être plus calme, silencieuse que le personnage de Duras. Et quant au jeune homme, il a quelque chose peut-être de plus naïf que ce qu'il est dans le roman.
Des personnages moins rudes, mais pas pour autant plus lisses. La BD est particulièrement réussie sur les difficultés, notamment de la jeune adolescente, pour affronter le monde extérieur. Une BD vraiment intéressante à découvrir et surtout qui donne envie. C'est ça qui est intéressant, de relire le roman de Marguerite Duras. Une BD qu'on peut lire à partir de 15-16 ans, pas avant.
Et on rappelle le titre, c'est facile, L'Amant, adapté donc en manga de Kan Takahama. C'est aux éditions Rue de Sèvres. Merci beaucoup Victor.
À la semaine prochaine Nicolas.
Salut.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide. Merci à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, pour la réalisation et à Xavier Joly pour sa programmation musicale. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. À la semaine prochaine.